говорит Москва.
Je croise aux forces de l'esprit pour aller amuser la galerie.
There is no alternative.
Désastre. Alignement des astres.
À ta place, en façon, des burgatous.
Time will tell.
Russe Europe Express, Jacques Sapir.
Bonjour. Me voici tout seul pour une émission un petit peu spéciale, oui. Mon habituel partenaire, Clément, n'est pas là aujourd'hui, mais nous allons effectivement pouvoir nous passer pour un temps de lui et faire cette émission sur la question des pénuries de médicaments et de la souveraineté pharmaceutique. Car voilà, ça ne fait pas encore les grands titres dans la presse, mais on commence quand même à en parler. La pénurie de médicaments s'installe en France. Elle ne touche pas des médicaments mineures, elles touchent des médicaments qui sont par exemple des traitements de maladies cardiovasculaires, des anticancéreux, des antidépresseurs, bref, des médicaments de toute première nécessité, qu'il s'agisse d'intervenir en urgence ou qu'il s'agisse de la cure de longue durée de patients. La santé, et peut-être la vie de certains patients, pourraient être en danger. Alors à quoi est-ce dû ? Car cette pénurie est suffisamment importante pour que les syndicats de pharmaciens s'en inquiètent, que les hôpitaux soient touchés et qu'ils s'organisent en conséquence. Nous avons là un véritable problème, un problème qui porte un nom, la souveraineté pharmaceutique. Très souvent, on associe la pénurie de médicaments au problème du sous-développement ou à des problèmes liés à une crise économique particulièrement sévère. Comment une telle situation peut-elle exister dans la France d'aujourd'hui, qui est un pays développé, un pays qui a produit plusieurs grands groupes pharmaceutiques et qui est dans le peloton de tête des pays où sont conçus les médicaments les plus puissants et les plus performants? Alors il faut sans doute se pencher sur l'économie du médicament, mais aussi sur l'absence de politique publique face à ce problème. Car si l'on parle de souveraineté pharmaceutique, le terme de souveraineté peut aussi faire peur au pouvoir public qui, bien souvent, l'associe au protectionnisme. De fait, les médicaments, dont le prix est réglementé en France, sont vendus moins cher dans notre pays que dans les pays voisins. Les laboratoires, ces grandes entreprises, peuvent, dans un certain nombre de cas, servir en priorité les pays où ils peuvent vendre le plus cher leurs médicaments. Le problème est classique. Faut-il alors réglementer ou au contraire supprimer les réglementations, libérer les prix ou interdire l'exportation de certains produits tant que la demande en France n'aura pas été satisfaite? Mais alors se pose un autre problème. Les coûts de recherche ont explosé depuis une vingtaine d'années, voire plus. Cela tient évidemment à la difficulté de la recherche, au fait que maintenant on conçoit des médicaments de plus en plus complexes, de plus en plus sophistiqués, traitant des affections de plus en plus particulières sur des créneaux de plus en plus étroits, et que l'ampleur des certifications, nombreuses, tend aussi à faire monter les coûts. Alors, on peut penser que cela tient à des formes dévoyées du processus de concurrence. De fait, quand un laboratoire conçoit une nouvelle molécule, il est tenté, bien entendu, de faire porter à cette molécule le poids de ses échecs passés. C'est d'ailleurs assez logique. Sauf que, pour la production de certaines molécules, le nombre d'échecs pour une réussite est aujourd'hui extrêmement important. Et, on le sait, la lutte contre certaines infections exige désormais des recherches intenses. Il en est ainsi par exemple des rétroviraux, mais aussi des médicaments traitant des problèmes cardiaques ou des problèmes de dégénérescence musculaire ou encore de certains anticancéreux. De même, l'apparition des phénomènes de résistance, pour les antibiotiques en particulier, impose des recherches longues et naturellement coûteuses. Tout ceci fait que les médicaments de pointe sont chers à concevoir, à certifier et peut-être plus cher dans ces deux domaines qu'ils ne le sont à produire. Une règle de base consiste à dire que la production d'un nouveau médicament, ou disons la conception d'un nouveau médicament, pourrait coûter autour d'un milliard d'euros. Alors, il y a d'autres problèmes. Les laboratoires changent aussi des formules pour éviter parfois la concurrence par les génériques. Ces médicaments qui sont efficaces, mais qui sont issus de brevets plus anciens, qui peuvent être tombés dans certains cas dans le domaine public. Bref, il y a une forme de course à l'armement dans le secteur du médicament, et comme dans la course aux armements militaires, elle conduit aussi à ce phénomène que l'on appelle le plaqué en or, on dit en mauvais anglais le gold plating, des nouveaux médicaments. Est-ce que ce sont des problèmes sans issue? L'État ne pourrait-il intervenir et en particulier définir ce que devrait être une politique du médicament intégrée dans une politique de santé? Mais on le voit immédiatement, la tâche de l'État n'est pas seulement d'ajuster la politique du médicament, c'est aussi de regarder la politique de recherche, la politique de production, bref, toute une série de problèmes qui, pour l'instant, ne sont pas coordonnés entre les différentes agences et entre les différents services de l'État. Ce sont donc aussi ces problèmes qui sont posés par la pénurie actuelle. Alors, pour discuter de cette pénurie, j'ai avec moi Bruno Bonnemain, membre de l'Académie nationale de pharmacie. Bonjour, Monsieur Bonnemain, qui va nous expliquer cette situation. Et pour commencer, je vais vous poser peut-être une question très simple, une question que se posent nos auditeurs. Quelles sont les relations entre l'Académie nationale de pharmacie et divers organismes comme l'Agence française du médicament ou la Haute Autorité de santé?
Alors, d'abord, l'Académie de pharmacie a été créée au début du 19e siècle sous le nom de Société de pharmacie. C'est devenu Académie de pharmacie par la suite. Et aujourd'hui, on a depuis 2 ans, on est sous la protection du président de la République, comme d'autres académies, comme l'Académie de médecine ou l'Académie des sciences. Donc les 300 membres actuels de l'Académie sont des gens tout à fait indépendants, qui traitent de sujets variés, soit justement qui nous sont confiés par le ministère de la Santé ou d'autres organismes, soit dont ils se saisissent eux-mêmes sans attendre l'avis d'une autorité quelconque. Là où on a beaucoup de contacts, c'est justement au moment où on édite des rapports ou des recommandations, où on a des allers-retours entre les différents ministères et nous-mêmes. On a également un certain nombre de nos membres qui participent directement à ces agences. Par exemple, de l'Agence du médicament, il y a des membres de l'Académie qui sont à l'Agence du médicament.
Donc vous déléguez ou les gens vont individuellement servir, que ce soit à la Haute Autorité de santé ou à l'Agence française du médicament.
Tout à fait, oui.
Alors, ceci donne une image, je dirais, convaincante, mais est-ce qu'il y a vraiment une coordination entre les différents services de l'État ou les agences indépendantes?
Moi, je pense que cette coordination existe en partie, mais est totalement insuffisante, surtout dans le cas des pénuries, puisque chaque ministère, il y a beaucoup de ministères qui sont concernés. Il y a le ministère, évidemment, de la Santé, il y a l'Agence du médicament qui fait ce qu'elle peut avec très peu de moyens pour réagir quand il y a une pénurie. Mais en pratique, il faudrait aussi mettre dans le coup le ministère de l'Industrie, le ministère de la Recherche, et je pourrais vous expliquer pourquoi, et puis d'autres ministères comme le ministère des Affaires étrangères, parce que ce problème de pénurie existe en France, mais existe également en Europe et aux États-Unis.
Oui, donc ça implique aussi les affaires européennes.
Exactement, donc tous les pays sont concernés, dans une moindre mesure dans certains cas. Les États-Unis, par exemple, sont moins touchés que l'Europe, mais ils sont tous concernés, donc il faut agir de façon coordonnée.
Donc on peut dire que ce problème de la pénurie médicamenteuse est un problème mondial.
Oui.
Ce n'est plus un problème qui est l'apanage des pays en voie de développement ou des pays sous-développés. C'est un problème qui touche donc aussi les pays riches. Et donc ma première question, c'est cette pénurie de médicaments aujourd'hui, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce qu'elle pourrait s'aggraver? Et quels sont les médicaments qu'elle touche?
Alors, d'abord, elle est importante, c'est sûr. Pour la France, par exemple, l'année dernière, il y en a eu à peu près 300 sur l'année, c'est-à-dire pratiquement un par jour.
Ah oui.
Donc c'est très très important.
Alors, comment on définit techniquement une pénurie?
C'est qu'on ne peut plus se procurer le médicament pendant un certain temps. Alors ça peut être quelquefois assez court, d'une semaine ou deux, mais c'est quelquefois des mois entiers. Ça peut être 6 mois, voire 1 an. Donc c'est extrêmement important. Alors, c'est un domaine qui touche, on peut dire, toutes les classes de médicaments, mais plus particulièrement 3, qui sont les anticancéreux, les antibiotiques et les vaccins. Ce sont vraiment les 3 les plus évidents, même si d'autres classes, encore une fois, sont touchées, bien sûr, également.
On comprend, sur les anticancéreux, ça pose quand même d'énormes problèmes. Même chose pour les antibiotiques.
Exactement, donc c'est très important pour les patients, puisque quand ils ont un traitement anticancéreux, par exemple, qui commence avec, prenons le 5-fluorouracil, qui est un médicament de base dans le domaine, il commence son traitement avec ça. Qu'est-ce qu'il fait quand il n'y a plus de produit? C'est vraiment un vrai problème. Donc, bien sûr, il y a des stocks qui sont faits, mais qui ne sont pas suffisants la plupart du temps pour couvrir la période concernée.
Alors, sur ces pénuries, est-ce qu'on peut dire qu'ils touchent prioritairement plutôt les médicaments très chers ou les médicaments qui sont beaucoup plus courants ?
Non, la plupart du temps, ce sont des produits anciens qui ne coûtent pas grand-chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir assez facilement quand on regarde les statistiques. Il n'y a quasiment jamais de rupture sur les produits chers.
D'accord. Donc, ce n'est pas une question de prix.
C'est une question de prix à la base, ils sont trop bas.
Voilà.
Je pense que le prix trop bas va inciter, pour différentes raisons, à ne pas avoir de produits. Quand on regarde d'ailleurs historiquement ce qui s'est passé en matière de rupture, c'est intervenu de plus en plus depuis l'arrivée des génériques. Donc les génériques, qu'est-ce qui s'est passé ? D'une part, l'industriel qui avait le produit de base n'a plus été capable de faire des prévisions correctes, puisqu'il ne savait pas ce qui allait se passer sur le marché. Et c'est vrai encore aujourd'hui, c'est très difficile de faire des prévisions. Donc ça a été le premier problème. Et puis le deuxième problème, c'est qu'il y a une baisse automatique des prix, à la fois du générique et du princeps. Et donc à ce moment-là, les marges deviennent tellement faibles que ça pose un problème à l'industriel.
D'accord. Alors, on comprend mieux, ça serait une fixation trop basse du prix, qui pourrait avoir un effet pervers. Ce n'est pas un effet qui a été voulu par le législateur ou le régulateur, mais ça pourrait avoir ce type d'effet. Deux questions qui se posent immédiatement. Tout d'abord, pourquoi ces prix trop bas ? Pourquoi est-ce que le médicament est-il en France moins cher, par exemple, que le médicament en Suède ou en Norvège, etc. ? Et puis ensuite, est-ce qu'on ne peut pas penser que pour certains médicaments, l'État pourrait créer ses propres capacités de production ?
Alors, pour ce qui concerne le premier point, le système de fixation des prix en France n'existe pas dans les autres pays. À part l'Italie, qui a un système un peu semblable. Mais dans tous les autres pays, c'est un prix libre qui se négocie avec les assureurs. Mais ce n'est pas du tout un prix fixé par l'État.
Réglementé, disons.
Réglementé. Donc déjà, c'est une première différence importante. La deuxième chose, c'est que c'est une politique voulue par le comité des prix en France, qui s'occupe de fixer les prix. Quand on a rencontré le président du CEPS, il nous a dit, de toute façon, moi, ma politique, c'est de baisser les prix systématiquement. Sauf si j'ai une instruction de la HAS qui me dit que tel produit est indispensable, mais je ne l'ai pas aujourd'hui. Donc, il baisse, il continue à baisser. Donc, effectivement, on se retrouve avec des prix les plus bas. Vous avez un certain nombre de pays, comme je prends la Turquie parce que je sais que ça existe, où la fixation du prix est une moyenne d'un certain nombre de pays. Je pense que ça serait intéressant de se rapprocher de ce système et d'avoir une moyenne européenne, de telle façon à ce qu'on puisse être à peu près équivalent aux autres pays.
Alors, ce que vous nous dites là est extrêmement intéressant, parce que vous reliez, et il y a certainement de bonnes raisons à ça, ce problème de pénurie à cette question du prix. Néanmoins, vous nous avez dit un petit peu avant, qu'on trouvait aussi des pénuries dans des pays où il n'y a pas ce type de réglementation, comme les États-Unis. Alors, c'est ça ce que nos auditeurs et les gens qui nous regardent aimeraient comprendre, c'est quelle est la part de l'effet des prix dans cette pénurie et quelle est la part peut-être de phénomènes plus structurels, de capacités de production insuffisantes.
Oui, alors effectivement, le prix n'est qu'une composante de ces problèmes de rupture. La deuxième composante, mais qui est quand même un peu liée à ça quand même, c'est le fait que beaucoup de productions sont parties dans les pays asiatiques, en particulier en Inde et en Chine, mais aussi en Corée, et que du coup ça a complexifié complètement la chaîne de distribution, qu'on appelle la supply chain, dans tous les pays et dans tous les produits, si bien qu'aujourd'hui, quand il y a une rupture quelque part dans cette chaîne, ça devient très compliqué de rattraper les choses.
Donc par exemple, est-ce que je peux encore trouver de l'aspirine ou un produit équivalent qui soit produit en France ?
Non. Ça, c'est fini. Le paracétamol, par exemple, qui est un produit de base en France, n'est plus produit du tout en Europe. Ça n'existe plus.
D'accord.
C'est entièrement produit en Inde et en Chine, et un tout petit peu aux États-Unis. Donc, d'accord. Effectivement, c'est un vrai problème, parce que cette complexification de la chaîne de distribution du médicament fait que c'est très compliqué de rattraper les choses. Dès qu'il y a un problème de qualité, par exemple. Vous avez, par exemple, certaines usines en Chine qui ont été fermées à la demande du gouvernement chinois, pour des raisons de pollution locale, eh bien, le produit n'était plus disponible. C'était des antibiotiques. On a eu la conséquence en France immédiatement. Il n'y a pas eu d'antibiotiques, de 7 antibiotiques pendant des mois.
Oui, donc on va se retrouver avec ce dilemme. Soit on exige pour la sécurité des patients une traçabilité, le respect de normes particulièrement sévères pour la production. Et à ce moment-là, certains sites de production peuvent être fermés parce qu'ils ne respectent pas ça. Ou alors, on veut avoir du médicament, mais on peut avoir du médicament de mauvaise qualité.
Oui, mais ça, évidemment, c'est pas ce qu'on cherche. Donc,
le dilemme, il est là.
Oui, le dilemme est là. Et puis, je pense qu'en pratique, c'est pas ce qui se passe. Heureusement, on fait en sorte que la qualité soit bonne. Mais quand on sait, par exemple, qu'il y a 1000 usines en Chine, il est évident que c'est très compliqué d'aller inspecter toutes ces usines. Donc, on passe forcément à côté d'un certain nombre de problèmes.
Alors, je reviens sur ma question initiale. Est-ce qu'il ne faudrait pas relocaliser en France, alors que ce soit en donnant des subventions à des groupes privés, voire en constituant un groupe public du médicament, pour arriver à se dégager de ce phénomène de pénurie?
Moi, je ne crois pas du tout qu'on puisse avoir une production, je dirais, étatique, en quelque sorte, parce que, de toute façon, il y aura des génériques, donc ça va être très compliqué à gérer en pratique au niveau des appels d'offres ou au niveau tout simplement de la production et de la vente des médicaments. Comment on va privilégier par exemple ce qui va être fait par l'État par rapport au reste? Ça devient très très compliqué. Donc je pense qu'il vaut mieux inciter les industriels à relocaliser quand c'est utile, et on peut le faire à travers plusieurs choses. D'abord, on peut le faire à travers les appels d'offres en privilégiant le circuit court. C'est bien pour la pollution, et c'est bien de toute façon pour nous, pour les patients.
Bien sûr.
Donc il faudrait que dans les appels d'offres, il y ait un critère de circuit court, en disant si votre médicament est produit en Europe, il sera favorisé par rapport aux autres. Bien. Voilà un des exemples qu'on peut avoir.
Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une vision du gouvernement.
Bien sûr, il faut qu'il y ait une politique générale sur qu'est-ce qu'on attend de l'industrie pharmaceutique, qu'est-ce qu'on attend de la recherche dans ce domaine, de la production, etc. Or ça n'existe pas. La seule politique, moi, que j'ai vue depuis des années, c'est baisser les prix.
Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est très important, c'est que, alors que le gouvernement devrait avoir une vision large, incluant toute une série de facteurs autour de la production du médicament, il s'est focalisé uniquement sur la question du prix, et là, ça pose un problème, puisqu'il a perdu de vue, justement, toute une série de ces facteurs.
Alors, il y a quand même une chose que je voudrais rajouter par rapport aux causes. On disait donc qu'il y a la cause prix, il y a la cause effectivement de ces productions délocalisées en Asie, mais il y a aussi le problème de la capacité de production. Aujourd'hui, quand on regarde le marché mondial des médicaments, c'est un marché qui est en forte croissance. Alors qu'en France, il stagne. Hein. Dans les autres pays, en particulier en Chine, en Inde, il augmente de façon exponentielle.
Ce qui est assez normal, puisque ce sont des pays qui montent en termes de niveau de vie.
Voilà. Mais les capacités de production ne suivent pas. Et ça, c'est un autre problème, c'est-à-dire qu'on va se retrouver à délivrer des médicaments qui sont souvent plus chers dans des pays comme la Chine ou l'Inde, et du coup, on n'a pas assez de production pour nous. Hein. Donc, c'est aussi ce problème de capacité, et en particulier dans les injectables, qui pose un vrai problème. Donc, on doit absolument favoriser la production en Europe. Mais pour ça, il faut aider les industriels, parce qu'ils ne le feront pas avec les marges qu'ils ont aujourd'hui, c'est pas possible.
Oui, tout à fait. On comprend bien que les industriels, ils auraient plutôt intérêt à délocaliser leur production dans des pays où les coûts de production sont très faibles. Et si on veut les faire revenir sur cette notion de circuit court, il faudra les inciter, d'une manière ou d'une autre, à le faire. Alors, j'aimerais qu'on aborde maintenant un des problèmes, vous l'avez évoqué d'ailleurs, mais qui me semble important, c'est la recherche. En quoi cette recherche concerne-t-elle le gouvernement? Parce qu'on a toujours dans l'idée, il y a des médecins, il y a des pharmaciens qui réfléchissent pour savoir quel nouveau médicament pourrait combattre telle ou telle maladie, et on ne voit pas l'État intervenir. Or, en fait, l'État intervient dans cette politique de recherche.
Bien sûr, oui. Ne serait-ce que par les crédits d'impôt recherche, bien sûr, au niveau industriel. Mais je pense que l'État devrait intervenir à deux niveaux. Le premier niveau, c'est s'assurer que les recherches françaises aboutissent à des produits industriels français, ce qui n'est pas forcément le cas. Vous allez avoir bientôt, d'ailleurs, un colloque sur ce sujet à propos de la thérapie génique au mois de septembre, qui est organisé au niveau des députés, hein, de la Chambre des députés, pour poser ce problème de transfert de l'industrie, de la recherche vers l'industriel. Et là, il y a un vrai souci, parce que la France ne prend pas la suite, je dirais, de la recherche. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que dans les causes de transfert de production vers les pays comme l'Asie, une des raisons de ce transfert en dehors du prix, c'est aussi le problème de la pollution. Un certain nombre de productions sont polluantes. Et donc on a transféré cette production vers des pays où ils sont moins regardants sur le plan de la production, ce qui veut dire que si on veut le réintégrer en Europe, il va falloir trouver des moyens de les faire propres. Et ça, c'est de la recherche.
Oui, bien sûr.
Et donc il faut que là, on incite également les industriels à faire de la recherche dans le domaine pour pouvoir réintégrer certaines productions en Europe.
D'ailleurs, il y a un journal, Le Canard Enchaîné pour ne pas le citer, qui avait parlé il y a quelques semaines du cas d'un médicament qui a été conçu en France et dont la société qu'il avait conçu a été rachetée par Novartis. Et donc, d'une certaine manière, ce médicament est devenu étranger, alors que sa conception est française, et il va être vendu comme un médicament étranger.
Exactement.
Vous confirmez que ce sont des choses qui se passent assez régulièrement?
Alors ça se passe très régulièrement, parce que effectivement ce cas, c'est pour ça qu'il y a eu ce colloque, il va y avoir ce colloque en mois de septembre, c'est sur ce cas précis justement, à partir de ce cas précis qu'il va y avoir une réflexion, mais c'est assez courant. Je dirais que le modèle de l'industrie pharmaceutique a beaucoup changé depuis quelques années. Il y a quelques années, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on avait la recherche dans l'entreprise, on faisait la production dans l'entreprise et on vendait derrière. Aujourd'hui, c'est plus du tout ce qui se passe. Aujourd'hui, on laisse des petites start-up faire de la recherche, et quand le produit est en phase 2 ou en phase 3, à ce moment-là, c'est racheté par une entreprise comme Novartis.
Autrement dit, quand il est, je dirais déjà, certifié, voilà, et qu'il arrive en phase de production.
Pratiquement, en tout cas, il est en fin de phase de développement. D'accord. Et on peut espérer qu'il sera vraiment un médicament. Et à ce moment-là, il est vendu très cher à une société comme Novartis, et c'est d'ailleurs une des raisons du prix. Et comme il est vendu très cher, il faut que ça soit rentabilisé.
Bien sûr.
Donc, effectivement, c'est un vrai problème. Je pense qu'il faudrait qu'on trouve un moyen pour que l'industrie française prenne le relais et non pas une industrie étrangère.
Russe Europe Express, Jacques Sapir.
Alors, l'autre point, on a parlé du coût, on a parlé donc du prix de vente du médicament réglementé en France. On parle maintenant du coût. Problème, les nouveaux médicaments coûtent de plus en plus cher à concevoir, à produire, mais surtout à concevoir, je dirais, à arriver à développer depuis l'idée d'efficacité d'une molécule un médicament qui soit pratique, utilisable. Certains de ces médicaments ne s'adressent qu'à des segments très réduits de la population. Et donc, est-ce qu'il y a là, effectivement, une des causes de la montée des coûts en interne à la filière? J'avais discuté il y a de cela une dizaine d'années avec un des responsables financiers d'un grand groupe français et qui me disait « Oh, développer une nouvelle molécule et arriver à en faire un médicament avec cette nouvelle molécule, ça coûte à peu près aussi cher que fabriquer un avion de chasse. » Alors, une petite exagération, mais quand même, c'est oui, des coûts qui sont tout à fait énormes.
Mais je crois qu'il y a les deux dans ce que vous dites. C'est-à-dire, il y a le fait que ça coûte de plus en plus cher intrinsèquement de développer un médicament, parce qu'on demande de plus en plus d'études qu'on ne demandait pas avant. Donc ça, c'est une réalité. En plus, de plus souvent, pour beaucoup de patients, il faut tester sur beaucoup de patients le même produit. Et puis d'autre part, il y a effectivement le fait que le médicament nouveau s'adresse à une population beaucoup plus restreinte. Et c'est exactement le cas de ce dont vous parliez juste avant, sur ce médicament qui a été donné à Novartis, qui s'adresse en France à peut-être une centaine de patients, et qui va coûter entre 2 et 3 millions d'euros la dose. Parce qu'il y a à la fois le fait qu'ils ont racheté une société qui leur a coûté très cher, mais il y a aussi le fait que la population est très restreinte.
D'accord. Donc, évidemment, deux problèmes. D'abord, un problème de coût de développement, qui, évidemment, puisque l'on va toujours plus loin en termes d'efficacité, on va toujours plus loin en termes de recherche, il est assez normal que les coûts de développement augmentent.
Oui, et puis il y a une autre raison pour laquelle les coûts augmentent, c'est aussi le taux d'échec.
Oui.
Parce que autrefois, quand vous cherchiez, je ne sais pas, un antihypertenseur, c'est très facile de trouver un modèle animal d'hypertension. Ce n'est pas un problème. Donc, de trouver un médicament qui abaisse la tension, c'est relativement simple. Par contre, pour la maladie d'Alzheimer, c'est plus compliqué. Il n'y a pas de modèle.
Voilà.
Il n'y a pas de modèle fiable.
Voilà.
Donc, c'est un peu la pêche.
Tout à fait. Et on comprend bien. Donc, on comprend ce développement des coûts, mais il y a aussi justement ce problème, à combien de patients potentiels ce médicament s'adresse. Et ça, c'est une question dont, d'une certaine manière, les personnes qui ont besoin du médicament n'ont peut-être pas à supporter la responsabilité.
Tout à fait, oui, non, ça, ils peuvent rien, bien sûr.
Est-ce que, par exemple, l'apparition de ce qu'on appelle les résistances aux médicaments, en particulier aux antibiotiques, est-ce que ce n'est pas aussi un facteur qui tend à accroître les coûts ?
Non, je ne crois pas, pas spécialement, parce que malgré tout, il y a quand même beaucoup d'antibiotiques encore qui sont efficaces aujourd'hui. Le problème, c'est que ces antibiotiques ne coûtent pas très cher à produire et malheureusement pas à vendre non plus, malheureusement pour les industriels. Et donc, je pense que le problème principal, c'est comme les produits ne sont vendus très peu cher, ça deviendrait extrêmement coûteux de faire un nouveau produit.
Donc c'est aussi une des raisons...
Donc du coup, on ne fait pas de recherche.
Voilà, de la non-introduction de nouveaux médicaments, et donc de l'extension du phénomène de résistance, puisque ce sont toujours les mêmes médicaments qui sont utilisés.
Oui, alors la résistance aussi est due à l'utilisation trop importante d'antibiotiques. Depuis des années, on fait des efforts, et ça marche pas mal au niveau vétérinaire. Il faudrait faire le même effort au niveau humain, et ce n'est pas encore tout à fait le cas. Donc là, il y aurait besoin de réduire la consommation d'antibiotiques, ce qui réduirait les résistances.
Oui, tout à fait. Et on sait par exemple qu'on a tendance à donner des antibiotiques contre des maladies virales, maladies sur lesquelles ils n'ont par définition aucun effet. Alors, un autre problème, c'est les conditions de concurrence entre les grandes firmes pharmaceutiques. Alors, certaines sont très spécialisées, d'autres sont beaucoup plus généralistes. Mais on comprend bien que la concurrence, ce n'est pas la concurrence par le coût, la forme classique de la concurrence. Quelle forme elle prend, cette concurrence ?
Je pense que la concurrence joue principalement sur la qualité des produits, sur les indications et la qualité des produits. Ce n'est pas tellement sur le prix, puisque le prix, encore une fois, il est fixé, donc de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Non, je pense que c'est surtout les indications qui sont obtenues. Donc c'est vrai que les firmes cherchent à obtenir plus d'indications pour se différencier des autres. Mais je ne crois pas que ce soit l'élément le plus important. Je voyais dans le domaine des vaccins, par exemple. Je discutais avec la société en France qui produit le plus de vaccins. Eux, ils ne demanderaient pas mieux que d'avoir des concurrents supplémentaires pour augmenter l'offre. D'accord. Donc, ce n'est pas forcément la concurrence qui est le problème
majeur. Là, il y a une limitation en termes d'offres. Ce n'est pas une limitation simplement en termes de prix, c'est une limitation
absolument.
En termes d'offres.
D'offres et puis de capacité de production. Il faudrait qu'on ait plus d'usines de production de vaccins qui coûtent très très cher. Donc, plus il y aura d'acteurs, mieux ce sera. Et donc, je ne crois pas que la concurrence soit un élément majeur dans l'explication de ce qu'on voit aujourd'hui.
D'accord.
Je ne pense pas.
Elle ne peut exister que sur des très grands groupes et sur certains types de médicaments,
oui, oui.
Quand il y a des compétitions entre deux ou trois molécules, et où là, évidemment, il y a ce dont je parlais dans mon introduction, le phénomène de gold plating, mais c'est pas un modèle général.
Je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que la plupart du temps, ce n'est pas le problème qui se pose pour les ruptures, en tout cas.
Alors, revenons justement à la notion de souveraineté pharmaceutique. Cette souveraineté pharmaceutique, on comprend bien, à vous entendre, que ça ne peut pas être l'autarcie, ça ne peut pas être l'autosuffisance complète. Qu'est-ce que c'est ? Comment pourrait-elle se matérialiser ?
Je pense que la souveraineté, disons, de la France ou de l'Europe pourrait être d'avoir de la production chimique de produits essentiels. Et aujourd'hui, encore une fois, tous ces produits sont partis en Asie, et donc encourager les industriels à le faire, mais aussi au niveau du produit fini. Parce que dans le cas du produit fini, il est évident qu'il y a aussi des besoins de production locale. Je vous disais tout à l'heure les injectables, mais c'est vrai dans d'autres formes, sur d'autres formes qui sont plus compliquées. Donc je pense qu'on a intérêt vraiment à favoriser les circuits courts, encore une fois, pour permettre une meilleure adaptation aux besoins du marché.
Ce qui impliquerait, que ce soit au niveau de la France ou au niveau des pays de l'Union européenne, ce qui impliquerait que l'on ait tous une vision intégrée, justement, de la production de médicaments. Et
exactement.
Vous dites que c'est ça qui manque.
Ben oui, bien sûr. C'est très compliqué au niveau européen d'arriver à une vision commune. Si vous prenez par exemple l'exemple des vaccins, c'est un exemple très, très clair, on n'arrive pas au niveau de l'Europe à se mettre d'accord sur un calendrier vaccinal qui soit le même.
Donc, Pourquoi ?
Pour des raisons que je n'arrive pas à comprendre. En tout cas, chaque pays a son calendrier. Et c'est très compliqué d'obtenir le fait qu'il y ait une harmonisation. Si bien que pour les industriels, c'est très compliqué. Parce que dans certains pays, vous allez avoir des vaccins qui sont avec plusieurs valences. Dans d'autres pays, ça ne va pas être les mêmes. Enfin, ça devient très compliqué à produire.
Mais là, c'est un petit peu étonnant. Il y a, je dirais, des contraintes qui sont communes. Dans les différents vaccins, si vous voulez. On sait que tel vaccin, il a telle durée, tel vaccin a une durée beaucoup plus faible, d'autres en ont des beaucoup plus longues. Vous voyez, on n'arrive pas à se mettre d'accord.
Non. Et même les spécialistes nous disent aujourd'hui, ça ne sera jamais possible. Donc c'est pour dire que vraiment, là, on a un problème de coordination évident.
Mais alors, est-ce que c'est un problème de culture médicale, de rapport des populations au vaccin?
Non, pas du tout, parce qu'il n'y a qu'en France où on a des difficultés sur la vaccination, mais pas ailleurs. Non, c'est vraiment un problème de culture médicale. Les approches médicales ne sont pas les mêmes. On n'associe pas les mêmes vaccins, pas la même période, pas avec les mêmes obligations. Donc c'est chacun fait sa sauce. Et c'est vraiment un problème.
Voilà, alors, ça c'est évidemment un exemple extrêmement intéressant. D'autre part, sur cette notion de souveraineté pharmaceutique, est-ce qu'il serait possible d'avoir une politique industrielle ou une politique de la recherche commune?
C'est compliqué, mais je pense que ce serait faisable. Oui, en tout cas, on pourrait avoir des axes qui favorisent la même chose. Par exemple, je vous donne un exemple sur les appels d'offres. Aujourd'hui, les appels d'offres, il y a un certain nombre de directives au niveau européen pour ces appels d'offres. On pourrait très bien, au niveau des appels d'offres, favoriser le circuit court pour tous les pays de l'Europe.
Oui, c'est ce que vous dites, c'est, bon, chaque pays va garder ses spécificités, bien, mais au moins, mettons-nous d'accord pour avoir une forme de coopération autour de quelques notions, comme par exemple, effectivement, cette notion de circuit court, cette notion de relocalisation de production. Et pour ça, il n'est peut-être pas nécessaire d'avoir toute une énorme machinerie européenne. Il suffit que les gouvernements s'entendent sur ces questions-là.
Exactement. Il y a aussi un autre sujet qui pourrait être un sujet d'harmonisation, et qui n'est pas compliqué, qui est compliqué actuellement, qui serait d'harmoniser la façon dont on gère les problèmes administratifs. Par exemple, ce qu'on appelle les variations, c'est-à-dire toutes les modifications des procédés. C'est très compliqué en France, ça met des mois à être approuvé. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus simple. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un moyen de faire de la même façon, d'interpréter les textes de la même façon, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui? La France, en particulier, interprète généralement les textes de façon très rigide, alors que d'autres pays sont beaucoup plus souples.
Alors, comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est le souvenir de problèmes particuliers sur certains médicaments?
C'est évident qu'en France, on ne veut pas avoir de problème, donc on ne prend aucun risque. Et l'Agence du médicament, clairement, ne veut prendre aucun risque réglementaire, donc n'a pas une attitude adaptative, je dirais, aux situations, en tout cas beaucoup moins que dans d'autres pays.
Donc, en fait, dans la politique qui est adoptée, et c'est vrai sur le médicament comme c'est vrai dans d'autres domaines, on retrouve l'écho des crises passées. C'est un petit peu la même question sur les formes de certification des produits alimentaires. Il y a eu le traumatisme de la crise dite de la vache folle, il y a de ça maintenant plus de 10 ans. Donc, ça serait ça que l'on aurait aussi de particulier en France.
Oui, je pense, oui. D'ailleurs, je vous dirais, entre nous, il y a quelques années, moi j'avais rencontré le directeur de l'Agence du médicament, qui m'a dit, mon seul travail, c'est de protéger le ministre. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas du tout un état d'esprit qu'on retrouve dans d'autres pays. Ce n'est pas du tout la même chose.
Bon, ce qui pose un autre problème, qui est le problème du grand courage de nos propres hauts fonctionnaires. Mais là, ça nous ferait un petit peu diverger de notre sujet initial. Je reviens sur cette notion de souveraineté pharmaceutique. Il est clair que cette notion n'a pas le même sens pour un pays en voie de développement et pour un pays qui a déjà une industrie et des capacités de recherche bien développées. Alors, on voit bien le problème qui se pose entre des pays émergents, par exemple l'Afrique du Sud, le Brésil, qui ont mené une bataille qui s'apparente à de la souveraineté pharmaceutique pour obtenir que certains médicaments soient déclassés en générique pour justement pouvoir développer cette production de génériques et fournir à leur population les médicaments dont elle avait besoin à des coûts raisonnables. On voit bien que la notion de souveraineté pharmaceutique prend un autre sens dans un pays émergé comme la France. Ça sera plutôt la protection de l'utilisateur, ça sera plutôt le fait de relocaliser. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'on peut trouver des points de convergence entre ces notions de souveraineté, ou est-ce qu'elles sont nécessairement appelées à devoir s'affronter ?
C'est une question difficile. Vous prenez l'exemple du Brésil que je connais. Le Brésil, par exemple, n'a pas contribué à l'harmonisation des pratiques réglementaires dans le domaine du médicament. Ils n'ont pas accepté d'être dans ce qu'on appelle ICH, qui est un système d'harmonisation entre les différents pays. Et je trouve que c'est dommage. Ils sont en train, petit à petit, de changer d'avis et de se dire que ça serait bien d'avoir une harmonisation, ce qui permettrait justement cette coopération dont vous parlez. Mais par ailleurs, il y a des usines, y compris par des entreprises françaises, qui existent au Brésil et dans d'autres pays. Donc, on est sur un marché mondial. Toutes les entreprises peuvent produire quasiment partout et produisent dans beaucoup de pays, hein, y compris dans les pays en voie de développement.
Sur la question en particulier des antirétroviraux, enfin des médicaments contre le sida, il faut rappeler justement que l'Afrique du Sud avait été un petit peu à la pointe de ce conflit avec les grands groupes. Est-ce que ça a eu des effets positifs quant à la diffusion de ce type de médicaments ?
Écoutez, je ne peux pas vous répondre là-dessus, je ne sais pas. Je ne suis pas compétent là-dessus, donc je ne peux pas vous répondre.
D'accord, parce qu'on voit bien que les logiques, et je dirais les problèmes qui se posent ne sont pas les mêmes.
Hein. Oui, oui.
On conçoit que, par exemple, votre équivalent en Afrique du Sud ne se posera pas vos problèmes, même s'il peut se poser des problèmes qui sont convergents, mais sur certains, évidemment. Et ce qui pose aussi la question, c'est existe-t-il au niveau mondial un espace de discussion, un espace de coordination sur ces questions ?
Alors, il existe plusieurs espaces de coordination. D'abord, je vous ai parlé de ICH, qui est donc le système de coordination des principaux pays USA, Europe, Japon, mais auquel se raccrochent un certain nombre de pays progressivement.
La Chine en fait-elle partie ?
Alors, la Chine n'en fait pas partie actuellement.
Or, vous nous avez dit que c'était l'un des plus gros producteurs.
C'est vrai. Elle n'en fait pas partie pour l'instant, mais je sais qu'ils sont observateurs. Donc, petit à petit, on commence à avoir une harmonisation des textes réglementaires qui font qu'on peut développer un médicament. Par ailleurs, au niveau de l'OMS, il y a également une vraie coordination. Et par exemple, sur le problème des pénuries, il y a eu pas mal de réunions de travail entre les différents pays pour essayer de trouver des solutions, y compris pour les pays en voie de développement. De même qu'il y a des travaux qui sont faits sur les faux médicaments ou les médicaments de mauvaise qualité dans un certain nombre de ces pays en voie de développement, au niveau de l'OMS, donc avec l'ensemble des pays.
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs un problème extrêmement sérieux et qui parfois prend des formes tragiques, que ce développement de faux médicaments qui sont très souvent vendus par Internet et qui envahissent entre 10 et 15% du marché des pays en voie de développement, des pays émergents.
Oui, je pense même que c'est largement plus que 15%. Hein. Oui. Non, c'est un vrai souci. Et alors, vous avez deux problèmes. Vous avez le problème des faux médicaments, puis vous avez le problème des médicaments qui sont théoriquement bons, mais qui sont de mauvaise qualité. Parce que les techniques de contrôle ne sont pas au point, parce que pour différentes raisons, ils sont produits localement, et ils sont de mauvaise qualité, et ça, c'est aussi un vrai problème.
Oui, tout à fait. Et ça, on comprend bien que c'est un problème de santé publique à l'échelle mondiale. Alors, dernier point, sur la question des capacités de production. Si on reste avec une espèce de pénurie de l'offre, alors qu'on a une demande qui ne cesse d'augmenter, à un moment donné, cela va entraîner des pénuries généralisées.
Exactement. C'est pour ça que je suis peu optimiste sur les années qui viennent. Je pense qu'on va augmenter les pénuries, malheureusement, de ce fait-là. Et c'est particulièrement vrai pour les injectables. C'est ça qui m'inquiète le plus, parce qu'en termes de capacité de forme sèche, donc les comprimés, c'est pas trop le problème. Mais sur les injectables, on a un vrai souci, d'autant plus que la réglementation européenne va évoluer et va augmenter encore les exigences de production des injectables. On risque d'avoir des entreprises qui ne seront plus au niveau pour produire ces injectables, alors qu'on ne fait pas d'investissement.
Oui.
Une usine d'injectables coûte extrêmement cher à créer. Donc c'est un vrai problème et je pense qu'on risque d'avoir vraiment des problèmes dans les années qui viennent pour les injectables.
Donc, ce que vous nous dites, et c'est extrêmement intéressant, c'est que là, ce devrait être traité en coopération internationale. Est-ce que ce problème a été évoqué dans un des quelconques G20 de ces dernières années ?
Alors, l'Europe, d'une façon générale, s'est prononcée sur ce sujet, mais principalement sur les nouveaux produits. Ils n'ont jamais vraiment regardé les produits plus anciens. Et c'est cela qui nous pose problème le plus souvent.
Et pourquoi ?
Dans les ruptures.
Pourquoi ?
Je ne sais pas. Honnêtement, je n'en sais rien. Donc, on est en train, nous, de travailler au niveau européen avec d'autres académies. Et il y a maintenant une fédération des académies de médecine et de pharmacie au niveau européen. Et on est en train de travailler avec eux parce qu'ils sont les interlocuteurs du Conseil de l'Europe. Et donc, c'est intéressant de voir qu'on peut, peut-être par ce biais-là, sensibiliser à ce sujet-là. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant que ça n'ait pas été pris en compte au niveau global.
Donc, là encore, ce que vous nous dites, et c'est extrêmement intéressant, c'est que la bureaucratie de l'Union européenne n'est pas capable de faire quelque chose, et il faut que ce soit les citoyens, enfin les académies, qui aillent voir leurs confrères dans d'autres pays, qui leur disent, voilà, il y a des problèmes qui se posent à tous, qui nous sont communs, comment on peut faire ?
Oui,
donc, en fait, vous êtes en train de nous décrire une forme de coopération au niveau européen, alternative à l'existence de la bureaucratie européenne.
Oui, vous avez raison, oui, oui, oui.
Mais et au niveau mondial, au niveau du G20 ou de l'OMS, est-ce que ça a été posé, cette question ?
Au niveau de l'OMS, j'ai pas vu. Enfin, il y a eu des choses sur la pénurie, parce qu'ils ont des problèmes de pénurie, bien sûr, au niveau mondial. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait eu vraiment quelque chose concernant les pays développés. Il y a surtout des choses sur les pays en voie de développement.
Bien sûr.
Mais il y a très peu de choses sur la partie développée. Nous-mêmes, nous avons interrogé tous nos correspondants étrangers, puisque nous avons des correspondants étrangers au niveau de l'Académie. Et tous nous ont évidemment remonté des informations en disant que ce problème était réel, mais pas forcément traité dans leur pays.
D'accord. Donc, on le voit, la question de la pénurie de médicaments n'est pas simplement un problème français, ce n'est pas simplement un problème conjoncturel, c'est un problème général, qu'il soit général au niveau mondial, qu'il soit général au niveau français, qui est peut-être appelé d'ailleurs à s'aggraver avec des pénuries qui deviendraient de plus en plus importantes. On voit aussi qu'il y a différentes raisons à cette pénurie, vous en avez parlé, des formes de régulation des prix qui sont peut-être inadaptées, une absence de politique du médicament global, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, et puis aussi un manque de développement de l'offre par rapport à une demande de médicaments qui ne cesse de s'accroître, et c'est tout à fait normal, puisqu'on a des pays qui sont en fait en transition vers une structure de pays, non pas riches, mais disons de pays émergents, qui sont en train dans la transition de la notion de pays en voie d'émergence à l'idée de pays complètement émergents. Donc, l'ensemble de ces causes devrait faire de cette question de la pénurie de médicaments et donc, bien entendu, de la question de la souveraineté pharmaceutique, une question dont on parlera beaucoup dans les années qui viennent.
C'est très clair.
Bruno Bonnemain, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Chers amis, chers téléspectateurs, chers auditeurs, puisque maintenant vous pouvez nous retrouver en podcast. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine et comme le dirait ce cher Clément Olivier, faites pas vos Jacques.
This is not a method. This is a provocation. Let them do.
No.